Votre émission Information, le débrief, l'info se poursuit. Je suis aujourd'hui en ligne avec un expert en plein air, un expert en camping, vie sauvage, ski. C'est quelqu'un qui vit dans l'est de la Colombie-Britannique, qui passe l'essentiel de l'année dans cette région. Il s'agit de Gabriel Gagnon. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Alors, je mentionne tout de suite à nos auditeurs que tu es mon frère. On fait ça en famille parfois ici dans l'émission et à la station. Les auditeurs connaissent aussi Louis qui habite en Italie, notre frère qui livre parfois des chroniques sur la science et l'environnement. Alors, tu es comme nous à la station et les auditeurs, tu es britanno-colombien d'adoption depuis quelques temps. Ça faisait plusieurs années que tu venais dans l'Ouest et c'est peut-être le début d'une nouvelle chronique, qui sait, parce que tu as énormément de choses à partager sur le plein air, la vie sauvage, les expéditions, le ski. Et on parle aujourd'hui d'une expérience que tu as vécue récemment. Tu as fait une rencontre assez intense avec un des habitants de nos forêts britanno-colombiennes. Tu as été confronté à un ours. Alors, on va peut-être relater ce qui s'est passé exactement.
Donc, ça s'est passé la semaine dernière, pas loin de la petite ville de Golden, dans l'est de la Colombie-Britannique.
Oui.
Moi et ma copine, on a monté notre tente à la tombée de la nuit, vers 23h, pas loin d'un sentier de vélo sur des terres de la Couronne, à une quinzaine de minutes à l'extérieur de Golden.
Oui.
Puis on s'est immédiatement couché dans la tente. Puis on s'est endormi à ce moment-là, on n'avait pas de nourriture, il y en avait juste nos sacs de couchage, pas de pantalon même dans la tente, c'était dans la voiture. Puis moi j'ai été réveillé le lendemain matin en sursaut par ma copine Roxane qui hurlait de panique parce qu'il y avait un ours noir qui était en train de lui mordre dans la main à travers le moustiquaire de la tente.
Oh là là.
Donc moi, je me suis réveillé en panique. Immédiatement, j'ai vu l'ours. J'ai commencé à hurler de toutes mes forces pour tenter de le faire fuir.
Oui. Est-ce que l'ours a lâché prise?
L'ours a lâché prise assez rapidement sur la main parce qu'il n'arrivait pas à avoir une bonne prise à cause du moustiquaire. C'est surprenant, mais le moustiquaire a vraiment fait une différence là, dans cette situation-là. Puis ma copine a comme donné un coup avec sa main, puis il a lâché prise. Puis à ce moment-là exactement, c'est là que je me suis mis à hurler de toutes mes forces. Puis ça l'a surpris, ça lui a fait peur. Donc il s'est éloigné une dizaine de mètres, il est parti à courir. Mais là il s'est arrêté. Puis il s'est retourné puis il nous a regardé à nouveau.
D'accord.
J'ai
Alors
vu que qu'il avait pas de peur que ça. Là.
D'accord. Donc on parle évidemment d'un ours noir et non d'un grizzly.
Ouais.
Est-ce que
non, c'est un gros ours noir.
Dans une conversation préalable qu'on a eue, tu m'as dit qu'il avait même pénétré dans le vestibule de la tente à un certain moment. Est-ce que c'est à ce moment-là?
À ce moment-là, il était dans le vestibule, c'est ça, parce que le double toit, il va plus loin que le moustiquaire, mais le moustiquaire est comme directement collé sur nous.
Oui.
Donc, il était dans le vestibule. La porte du vestibule était ouverte, puis il y avait juste le moustiquaire entre nous et l'ours.
Wow, c'est quand même une injection d'adrénaline immédiate et très puissante, quasiment une overdose d'adrénaline de 0 à 100 là, quasiment. Toi tu as crié à plein poumon, tu as réussi à faire reculer l'ours qui s'est éloigné d'une dizaine de mètres et tu as profité de cet espace-là pour sortir de la tente et continuer à lui hurler dessus.
Ouais, ben c'est de prime abord, j'espérais que ça le fasse fuir complètement là, mon hurlement, mais finalement c'est ça, il s'est arrêté à une dizaine de mètres, puis j'ai vu qu'il allait revenir.
Okay.
Donc là j'ai vu ça, je suis sorti de la tente. J'ai pris la première roche que je pouvais ramasser, il y avait des roches autour de la tente, heureusement.
Oui.
Puis tout de suite l'ours il s'en revenait vers moi. Donc quand il était à 3-4 mètres de moi, j'ai lancé la première roche.
Oui.
Qui l'a manqué, mais ça lui a fait peur, donc il est reparti à peu près à la même distance.
Oui.
Puis il s'est arrêté, puis il s'est retourné encore, donc il voulait revenir. Ça lui faisait pas peur, il était prêt à entrer en confrontation.
D'accord. Alors on parle d'un ours mâle adulte.
Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais c'était un adulte.
D'accord.
De pleine taille,
Oui, donc quoi, je sais pas, en livres ou en kilos, là, C'est quoi, c'est 250 livres, facile, ça?
Non, je dirais qu'il faisait entre 300 puis 400 livres.
D'accord, oui. Alors, c'est vraiment une bête, quoi. Et
Ouais.
quand on voit ça de proche, une face d'ours, c'est assez saisissant.
Oui, en effet, surtout quand on est couché à terre.
C'est clair. OK. Bon, alors, poursuivons parce que c'est pas fini.
Non.
La rencontre continue, le face-à-face se poursuit.
Oui, c'est ça. Donc, la voiture était juste à côté de la tente. Donc, c'était comme notre porte de sortie pour se mettre hors du danger. C'était de rentrer dans la voiture. Sauf que quand je me suis couché le soir précédent, mes clés de voiture étaient dans mes poches de pantalon. Puis quand j'ai enlevé mes pantalons pour dormir, les clés sont tombées dans le sac de couchage sans que je m'en rende compte. J'ai dormi la nuit comme ça, puis les clés se sont promenées partout. Donc, Roxane, ma copine, cherchait les clés de manière très empressée
Oui.
pour qu'on puisse rentrer dans la voiture pendant que moi, je gardais l'ours à distance avec les roches. Donc, ça a pris 2, 3 minutes de recherche intense avant qu'elle finisse par trouver les clés qui étaient au fond de mon sac de couchage.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, puis là, elle m'a dit, j'ai trouvé les clés. Fait que je lui ai dit de courir puis de se réfugier dans la voiture pendant que je gardais le contrôle sur l'ours.
Oui.
Puis une fois qu'elle a été dans la voiture, pas longtemps après, j'ai senti que j'avais un moment, puis j'ai couru, là, j'étais comme à 5 mètres de la voiture. Après, j'ai couru, je suis rentré dans la voiture, j'ai fermé la porte. Puis à partir de là, on était en sécurité, là.
Vous deviez avoir un rythme cardiaque à 160 dans le tapis, là.
Ouais.
C'est la période de recherche des clés, c'est quand même aussi le moment le plus critique de cette mésaventure-là.
Ouais. C'est extrêmement rare
Oui, voilà, donc
comme type d'attaque.
c'est ce que tu me disais, c'est une attaque de prédation, c'est ça?
Ouais, c'est ça. De prédation, donc l'ours était là pour manger ma copine, carrément. Tout dans son comportement le montrait, puis il avait pas peur du tout, il était pas agressif, il montrait pas de signe d'agressivité, mais il revenait tout le temps vers nous. Puis dans le cas d'un ours noir, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. Puis c'est pire qu'une attaque de prédation de grizzly, dans le sens que le grizzly aime sa nourriture avec un peu de putréfaction, donc il préfère laisser sa nourriture pourrir un petit peu puis revenir la manger plus tard.
Oui.
Donc, c'est possible de faire le mort puis de s'en tirer comme ça.
Ah oui.
Mais avec un ours noir, lui, il mange sur le coup.
D'accord.
Donc, c'est vraiment, il faut se battre avec, hein.
Bon, d'accord. Alors, maintenant qu'on a fait le récit de ce face-à-face, est-ce qu'on peut, pour les auditeurs, indiquer quelques conseils, justement, parce qu'il ne faut quand même pas s'empêcher d'aller dans la nature et de faire du camping. On sait que c'est très rare, mais en fait, pour réduire encore plus les chances de ce genre de rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est difficile à dire. La plus facile, c'est de pas camper là où les ours habitent.
Oui.
Mais sans, en Colombie-Britannique, c'est pas possible. Donc, d'avoir du poivre de cayenne
Oui.
pour les ours à l'intérieur de la tente, de garder le vestibule fermé. Si on avait eu le vestibule fermé, ça aurait mis une distance. Puis on aurait eu plus de temps pour réagir. Ma copine Alexandre se serait probablement pas fait mordre la main. Puis je pense que l'ours serait tout simplement pas venu parce qu'ils nous auraient pas vus, ils auraient juste vu la tente, c'est un objet étrange, puis ça leur fait peur un petit peu, même si c'est juste une tente de toile.
Oui.
Il y a des gens qui installent des pieux autour de leur tente en bois ou qui suspendent des cannes de conserve après une corde, comme ça si l'ours entre dans le périmètre, ils vont entendre.
Oui.
Ils vont être réveillés avant que ce soit l'ours qui les réveille lui-même. Puis c'est sûr que toute nourriture doit pas être dans la tente, le camp doit être propre,
D'accord.
rien qui dégage une odeur forte qui pourrait attirer l'ours, mais ça, c'était pas
C'était pas votre cas.
quelque chose qu'on avait fait. Non, puis c'est une précaution bien connue que la plupart des gens prennent, mais pour les cas d'attaque de prédation très exceptionnelles comme ça, en gros, il faut être prêt à confronter l'ours
Oui.
parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire vraiment. C'est du poivre de cayenne.
Oui.
S'il s'en vient à la confrontation corps à corps, un couteau,
Oui.
je veux dire, des roches, avoir une pile de roches pas loin de la tente, ça c'est ce qui nous a sauvés, je pense, en fait, c'est d'avoir vraiment. Il y avait un rond à feu là, juste à côté de la tente, puis je pense que c'est ça qui nous a sauvé la vie, plus que d'autres choses.
D'accord. Donc, du poivre de Cayenne qui propulse bien, des roches
Ouais.
à proximité, aucune bouffe dans la tente, un couteau, un bon accessoire à posséder, un couteau de forêt.
Ben, ça, c'est vraiment un dernier recours, mais bon, si ça revient à ça, c'est mieux que rien.
Oui. Et on rappelle bien sûr aux auditeurs que c'est extrêmement rare.
Ouais.
Et voilà. Donc, comme je l'avais dit, vous êtes maintenant des ceintures noires, des coureurs des bois, ceintures noires. C'est. Et ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que vraiment vous avez une très longue expérience du camping. Peut-être qu'on peut évoquer un petit
ouais,
peu
absolument.
Ce que vous avez fait comme exploration, expédition dans l'Ouest et dans l'Est aussi, puisque il y a eu de nombreuses expéditions dans l'Est. Peut-être juste faire un parcours des grands faits d'armes que vous avez fait là, en plein air là, au cours des dernières années?
Ben, beaucoup de randonnées dans l'arrière-pays, randonnées hors sentier même,
oui.
Toujours en camping avec la tente, jusqu'à une dizaine de jours de longueur sans ravitaillement.
Oui.
Beaucoup de ski, énormément de ski hors-piste. Comme tu dis, en Colombie-Britannique, comme au Québec, comme dans le nord-est des États-Unis. On en a fait beaucoup, mais c'est sûr que la Colombie-Britannique, c'est l'endroit où il y a le plus d'ours, il y a le plus de grizzlies aussi, parce que des grizzlies, il n'y en a pas dans l'Est. Énormément de camping, du planting aussi. On a planté des arbres, on a été sur des camps. On a vécu, l'été passé, on n'avait pas de maison, donc on a passé 5 mois à dormir dans la voiture, mm-hmm. Des fois dans la tente aussi.
Oui. Et vous avez
donc ouais, on a beaucoup d'expérience de plein air.
Oui, et vous avez même fait du camping d'hiver, ce qui est vraiment réservé
ouais.
aux gens qui savent ce qu'ils font. Et c'est assez rigoureux le camping d'hiver. Beaucoup de ski, comme tu le disais, beaucoup de ski hors piste dans des
mm-hmm.
régions peu explorées. C'est vraiment fascinant. Est-ce que ça va vous inhiber cette expérience-là? Est-ce que ça va vous limiter? Est-ce que vous avez des séquelles ou des craintes maintenant ou vous êtes prêt à recommencer, à repartir?
Je dirais que dans les jours qui ont suivi, les 3-4 jours qui ont suivi l'événement, je me sentais comme assez ébranlé.
Oui.
Mais non, on est retourné hier. On est allé faire hier, en fait, à Gorman Lake, juste à côté de Golden.
Alors, on a bien entendu, tu as fait du ski hier au mois de juin,
ouais.
Au mois de juin, à quelques jours du solstice d'été.
Ouais, ouais.
Peut-être
c'est
juste.
Exact.
OK, c'est merveilleux. Donc, c'était à quelle altitude que vous avez fait du ski hier?
Je dirais qu'on a skié entre 1800 et 2500 mètres d'altitude.
Magnifique. J'ai un ami ici à Victoria qui était au Mont Washington, dans le nord de l'île de Vancouver, un peu au nord de Nanaimo, on va dire, et c'était il y a quelques
mm-hmm.
jours. Il me disait qu'aux environs de 1600-1800 mètres, il y avait genre 2 mètres de neige encore. Alors,
ouais, il y a encore beaucoup de neige au sol.
C'est ça, c'est remarquable cette année. Donc, vous avez peut-être pris davantage de précautions. Pour revenir à ma question, vous avez peut-être une nouvelle bonbonne de poivre de Cayenne bien remplie et
ouais.
un nouveau...
Ben,
oui.
on a toujours nos deux bonbonnes de poivre de Cayenne dans la voiture, mais on les amène pas toujours avec nous.
Ah.
Mais maintenant, on les amène tout. On va toujours les amener avec nous.
Genre à la ceinture, quand même.
Ouais, puis on fait énormément de bruit là, pour...
Oui.
Pour essayer d'avertir les ours qu'on arrive,
mm-hmm.
Pour pas se rencontrer face à face, pour leur faire peur avant d'arriver.
OK.
Puis éviter le plus possible toute forme de confrontation. Mais même dans les derniers jours, j'ai vu d'autres ours. On a vu un ours hier en voiture en allant justement skier. J'en ai croisé un en vélo il y a 3 jours,
oui.
face à face pour la santé. J'étais avec 2 amis. Puis l'ours avait un comportement, il avait pas peur comme ça.
Mm.
Celui-là, il restait sur le sentier, donc on était obligé de rebooter le chemin puis de remonter d'où on était venu.
D'accord.
Mais il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup de neige encore dans les montagnes de la Colombie-Britannique, beaucoup plus que d'habitude à ce temps-ci de l'année. Puis c'est ce que l'agent de protection de la faune m'a dit à Golden, c'est qu'ils étaient dans les vallées encore, et très présents dans les vallées. beaucoup plus que d'habitude à ce sens-ci de l'année, parce qu'il y a encore trop de neige dans les montagnes. Donc, leur source de nourriture est dans le bas des vallées, puis c'est pour ça qu'on en voit autant si proche des villes.
Ah, et ils ont faim, naturellement, puisqu'ils ont dormi tout l'hiver.
C'est ça, oui, ils ont faim.
OK. Bon, ben, avec les précautions nécessaires, on peut fonctionner en plein air. C'est super. Gab, je mentionne aussi à nos auditeurs que tu es un jazzman accompli avec des prix, un album déjà à ton actif. Les auditeurs du débrief saison 1, entre guillemets, connaissent ton travail puisque une pièce de ton récent album fermait l'émission tous les soirs. On reparlera sûrement de jazz dans le débrief. Ce serait chouette de faire une entrevue là-dessus au cours de l'été. En attendant, ben,
Ben oui, je l'espère.
oui, ce serait génial. Il y a d'ailleurs un festival de jazz ici ces jours-ci à Victoria. Peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus. En attendant, en tout cas, je te souhaite du plein air très agréable, sécuritaire et puis plein d'oxygène, plein les poumons.
Ben merci.
D'accord, merci beaucoup, Gab, pour ce récit d'aventure et puis on se retrouve très bientôt.
Super, bonne journée.
Encore merci à Gabriel pour cet entretien sur ce récent face-à-face en pleine forêt britanno-colombienne. On précise, car ce ne l'était pas fait de façon explicite dans l'interview, que la main de la copine de Gabriel se porte bien. C'est une blessure mineure, donc plus de peur que de mal, fort heureusement. Et on reparlera bien sûr à Gabriel prochainement à propos de plein air et aussi à propos de jazz. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du 16 juin. Excellent.